VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Contestation au Soudan, le président soudanais déchu Omar al-Bashir a été transféré dans la nuit de mardi à mercredi dans une prison de Khartoum. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP aujourd'hui un proche de l'ancien chef de l'État, renversé par l'armée le 11 avril sous la pression de la rue. Selon ce membre de la famille présidentielle qui s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat pour raison de sécurité, Omar al-Bashir est maintenant à la prison de Kober à Khartoum. Toujours concernant le Soudan, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a nommé un émissaire pour le Soudan afin d'aider l'Union africaine à conduire une médiation alors que le Conseil de sécurité reste divisé sur ce dossier. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Nicolas Ezom, un avocat sud-africain, fera tout ce qu'il peut pour soutenir les efforts de l'Union africaine. C'est ce qu'a déclaré Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Il a précisé qu'Antonio Guterres a discuté par téléphone avec Moussa Faki, président de la commission de l'Union africaine, du rôle de Nicolas Ezom, qui a déjà rempli des missions pour l'ONU en Somalie, en Afghanistan, au Soudan et au Soudan du Sud. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a fermement condamné la prise de pouvoir par l'armée et a menacé de suspendre le Soudan si l'armée ne cède pas le pouvoir à une autorité civile dans les 15 jours. Vendredi, lors d'une session à huis clos, les 15 membres du Conseil de sécurité n'ont pas réussi à s'entendre. La Russie, la Chine, l'Afrique du Sud, la Guinée équatoriale se sont opposés à l'approbation d'un texte estimant que la crise au Soudan est une affaire interne qui ne menace pas la paix et la sécurité internationale.
Politique en Mauritanie, le premier tour de l'élection présidentielle dans le pays a été officiellement fixé au samedi 22 juin et un éventuel second tour au 6 juillet. C'est ce que révèle un décret présidentiel rendu public ce mercredi. La publication du décret ouvre la période officielle de dépôt de candidature qui prendra fin le mercredi 8 mai. Parmi les candidats qui se sont déjà déclarés, le porte-étendard du parti au pouvoir, Mohamed Oul-Cheikh Mohamed Ahmed, compagnon de toujours du président Mohamed Oul Abdelaziz, qui ne peut pas se représenter au terme de son second mandat. Également en lice, l'ancien chef du gouvernement de transition de 2005 à 2007, Sidi Mohamed Ould Boubacar, le militant anti-esclavagiste Biram Oulda Ould Abeid et l'opposant historique Mohamed Ould Mouloud. Tous ont déjà fait acte de candidature. La campagne pour le premier tour est prévue du 7 au 20 juin et les membres des forces armées et de sécurité voteront la veille du scrutin, soit le 21 juin. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka a annoncé dans une allocution télévisée mardi soir l'ouverture d'une concertation nationale du 23 au 28 avril avec les forces politiques et sociales du pays sur un projet de révision de la Constitution. Le président Ibeka a aussi abordé, entre autres sujets, l'école et la situation dans le centre du Mali. Des détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Ibeka a commencé son discours par l'incendie qui a ravagé l'église Notre-Dame de Paris.
J'aimerais inviter tous nos compatriotes à se joindre à la douleur de la communauté chrétienne qui pleure Notre-Dame de Paris. Le joyau ravagé par le feu avait su traverser les temps. Aujourd'hui, il n'appartient plus à une confession, il est un trésor mondial.
Abordant les sujets nationaux, il dit que le salaire des enseignants grévistes sera débloqué avant de déplorer l'attaque d'Ogossagou.
L'État, pour sa part, n'acceptera pas de dérogation et il sévira avec la même rigueur contre toutes les milices et tous les fauteurs de guerre. Les mesures nécessaires ont été prises au niveau du gouvernement pour que des contingents supplémentaires des forces armées et de sécurité soient déployés sur le terrain.
Pour ce qui est de la révision constitutionnelle, Ibeka propose un débat national en préalable de la tenue d'un référendum.
Aussi ai-je décidé de confier à un groupe de 1000 personnalités la tâche de diriger cette concertation nationale qui se réunira du 23 au 28 avril 2019, qui réunira tous les présidents, toutes les politique et sociale de notre pays.
Lors de son adresse à la nation, la principale revendication des Maliens relative à la démission du Premier ministre n'a pas été évoquée par le président Ibeka. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a lancé mardi un avertissement sans précédent aux élus qui, selon lui, manipulent les groupes armés. Une mise en garde formulée lors de sa visite à Beni, province du Nord, Kivu, dans l'est du pays. Le chef de l'État a menacé ses élus de poursuites pour complicité d'assassinat. Félix Tshisekedi a aussi demandé aux groupes armés de déposer les armes. On reste en RDC, appel à des actions disciplinaires après le rapport de Global Witness dénonçant la vente de permis forestiers illégaux dans le pays. Le député Claudel Lubaya veut que l'on donne au chef d'état-major adjoint des forces armées congolaises, le général Amissi Kumba, alias Tango Fort, l'occasion de se défendre. L'officier congolais est cité dans le rapport de Global Witness publié mardi pour violation du moratoire concernant les concessions forestières. Eddy Sango a joint le député national Claudel Lubaya.
Ce rapport de Global Witness n'est pas le premier. Il rejoint plusieurs autres rapports sur le même sujet, mais sur bien d'autres sujets. Et tout cela a conduit autrefois le gouvernement américain ainsi que l'Union européenne à infliger des sanctions à l'endroit d'un certain nombre de responsables congolais, dont le général Amissi. Et aujourd'hui que Global Witness revient encore sur les mêmes faits, j'estime qu'à la faveur de l'alternance arrivée à la tête du pays le 30 décembre 2018, il y a lieu que la République, comme bien sûr la hiérarchie militaire, soit préservée de toutes ces suspicions, de toutes ces dénonciations répétées. Et que pour cela, la procédure la plus simple, c'est que le ministre de la Défense, qui est l'autorité hiérarchique directe de l'officier concerné, puisse tout simplement l'ouvrir une action disciplinaire.
Mais là, on parle de la compagnie Maniema Union 2, qui appartiendrait plutôt à la famille du chef d'état-major adjoint des FARDC, mais pas lui directement.
Oui. Mais pas lui directement, mais ça concerne sa famille et c'est lui qui est cité. C'est pour cette raison que pour préserver l'honneur de sa famille, pour préserver la dignité aussi de sa famille, il est important qu'au niveau de la hiérarchie militaire, spécialement au niveau du ministère de la Défense, qu'une procédure légale soit ouverte, qui est régi par la loi portant statut du militaire en son article 110 pour permettre tout simplement à l'officier concerné de fournir ce moyen de défense qui pourrait le mettre lui-même à l'abri de toutes ces dénonciations, mais aussi clarifier définitivement cette situation qui ne fait que perdurer.
Le général dont on parle ici n'a pas arraché de lui-même ses contrats, mais comment expliquer, je sais que vous n'êtes pas du gouvernement, que le gouvernement en 2018 ait révoqué des contrats attribué à des tiers pour les redonner à la compagnie appartenant à la famille du général et qui l'a revendu en 3 jours seulement aux Chinois.
Ce n'est pas sur les médias, que ce soit à la radio, à la télévision ou sur les réseaux sociaux, que cela va avoir de réponse. C'est pour cette raison que je fais appel au sens de responsabilité de l'autorité hiérarchique directe de l'officier concerné.
Claudel Lubaya, député national et leader du parti Union démocratique africaine originelle en République démocratique du Congo. Alors, actualité hors d'Afrique maintenant, l'incendie de la cathédrale Notre-Dame joyeuse gothique, symbole de Paris, provoque un élan de solidarité sans précédent. Une souscription nationale, des cagnottes à l'appel, des dons de grosses fortunes et peut-être même bientôt une conférence de donateurs. Les détails avec Morgane Guiriette.
Apple, la Banque Centrale Européenne, des milliers d'anonymes. Les promesses atteignent au moins 800 millions d'euros. La barre du milliard devrait être facilement franchie. Les sommes devraient continuer à affluer après l'appel à la mobilisation lancé par le patronat français aux entrepreneurs. Parmi les donateurs figurent de nombreuses associations, fondations et entreprises. Plusieurs grandes fortunes de France ont sorti leur carnet de chèques. La famille Pinault a promis 100 millions d'euros. La famille Arnault annonce un don de 200 millions. Et la famille Bettencourt-Meyers promet autant.
temps. Et dès lundi soir, le président Emmanuel Macron a confirmé qu'une souscription nationale allait être lancée pour une reconstruction qui s'annonce longue et difficile. De son côté, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé une contribution de 50 millions d'euros de la ville et souhaite organiser dans les prochaines semaines une grande conférence internationale des donateurs.
Merci de votre attention. Restez à l'écoute de VOA Afrique.